tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grâce merveilleuse de pouvoir, dimanche après dimanche, venir librement à la maison du Seigneur, se retrouver et partager ensemble cette parole si merveilleuse. Et avant de commencer, je demanderai à notre ami, notre bien-aimé frère Joseph, de faire la lecture du passage qu'on va ensemble méditer. Et après, si vous voudrez bien prier pour le message, s'il te plaît. C'est Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14.
Je lis au nom du Seigneur. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps dévouez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de paix. Voilà, ce matin, nous sommes réunis pour te célébrer, pour t'écouter aussi ta parole. Mais Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu étais accepté, crucifié pour nous. C'est parce que, Seigneur, tu as fait le plus grand sacrifice, tu as payé nos dettes pour nous, Seigneur. Alors, Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là ce matin, en reconnaissance. Voilà le frère qui va apporter ta parole, Père éternel. Je te demande, Seigneur, de le remplir par ton esprit. De mettre, Seigneur, des bonnes langages dans sa bouche. Mais je sais, Seigneur, que c'est pas lui, Seigneur, qui va parler, mais c'est toi, Seigneur, qui va manifester en lui, Seigneur. Et tout ce qui va sortir dans sa bouche vient de toi, Père. Vraiment, Seigneur, bénis-nous, notre assemblée, Seigneur, d'écouter le message qu'il va dire ce matin, attentivement, et faites-nous comprendre aussi avec ta bonté. Merci, Père éternel. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Lorsque j'aurai l'occasion de porter la parole de Dieu ici, je parlerai beaucoup sur l'épître aux Hébreux. C'est une épître extraordinaire. Une épître que j'aime beaucoup, parce que c'est une épître qui nous permet de découvrir la personne bénie de Jésus-Christ. A lancé 5 grands avertissements, des avertissements solennels, indispensables et fondamentaux dans la marche de tout chrétien. Ces conseils que nous pouvons retrouver dans l'Épître aux Hébreux se retrouvent dans toute la Bible, dans tout le message de l'Évangile. Et ce sont des avertissements qui doivent nous interpeller chaque jour dans notre communion avec Jésus-Christ. Personne ne peut s'exclure de ces avertissements ou dire qu'il n'est pas concerné. Ce sont des avertissements qui sont là pour nous aider à grandir dans notre connaissance de Jésus-Christ et à nous affermir dans notre espérance. Le chrétien est celui qui est rempli d'espérance. Et les avertissements de l'Épître aux Hébreux sont là pour aider le chrétien à grandir et à l'affermir dans son espérance. Amen. Alors, j'ai dit qu'il y a 5 grands avertissements. Le premier, c'est « Prends à cœur ce que dit le Fils ». Chapitre 2. « Ne pas s'exclure du repos promis ». Chapitre 3. « Ne vous relâchez pas ». Chapitre 5. « Le péché volontaire et ses conséquences ». Chapitre 10. « Ne méprisez pas celui qui parle du haut des cieux ». Chapitre 12. Avec 5 grands avertissements. Et notre passage que nous venons de lire, c'est le troisième. Ne vous relâchez pas. Lorsque nous n'avons pas encore fait la paix avec Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ et recevoir ainsi la vie éternelle, la parole de Dieu nous exhorte à nous convertir, à abandonner le péché et à suivre Jésus-Christ. Lorsque nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ, cette même parole nous exhorte à nous attacher à l'enseignement de Jésus-Christ et à grandir dans la connaissance de notre Sauveur. Si nous sommes tous différents dans notre marche avec Dieu, c'est vrai que, quelque part, nous sommes tous uniques. Nous vivons tous des expériences différentes. Nous n'avons pas les mêmes témoignages. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que nous sommes tous unis par une même nécessité, qui est la nécessité de devenir des adultes spirituels. Quelles que soient nos expériences, Dieu nous demande tous de devenir des adultes spirituels. Et la volonté de Dieu pour son peuple, c'est que nous devenions des chrétiens matures, des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui veulent vivre des choses profondes. Amen. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, un même message peut toucher deux catégories de personnes. Les hommes charnels ou les bébés spirituels. Ou toucher les hommes spirituels ou les chrétiens matures. Le même message peut s'adresser à des bébés comme à des hommes spirituels. Dans l'Église, il y a deux types de conduite. Il y a ceux qui marchent selon l'homme et ceux qui marchent selon l'esprit. Ma manière de marcher dépend de ce que je suis. Et ce que je suis reflète mon intimité avec Jésus-Christ. Mon intimité avec Jésus-Christ influence ce que je pense, ce que je crois, ce que je désire faire avec Dieu, et jusqu'où je suis prêt à m'investir pour l'œuvre de Dieu. Mon intimité. Je peux tromper les hommes par mon comportement, mais je ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu connaît mon cœur et Dieu sait exactement où j'en suis. Dieu le sait. Et c'est pourquoi Dieu me demande de faire des progrès, de grandir. Ce qui caractérise l'enfant en Christ, c'est qu'il est devenu lent à comprendre. Il témoigne d'une certaine aptitude à ne pas comprendre ce qu'on lui enseigne. C'est comme à l'école. L'Église, c'est l'école du Seigneur. Naturellement, il est nullement question d'intelligence ou de savoir intellectuel. Il n'est pas question de cela. Il est surtout question de maturité spirituelle. Vous voyez, cette maturité spirituelle qui s'acquiert dans une profonde intimité quotidienne avec Jésus-Christ, où jour après jour, comme des disciples, nous sommes à son écoute et que nous mettons en pratique ce qu'il nous enseigne. Je me suis converti au bel âge, 18 ans à peu près, ouais, 18 ans. C'est le bel âge. On m'a longtemps enseigné à l'église, il faut lire sa Bible, il faut passer du temps avec le Seigneur. Au début, c'était un petit peu barbaratif. Je ne voyais pas vraiment, fondamentalement, la grande nécessité chaque jour d'être devant le Seigneur. Je le faisais, mais je ne voyais pas vraiment la grande nécessité. J'ai la chance d'avoir 50 ans maintenant. Je peux vous dire une chose. C'est que ces petites vérités qu'on m'enseignait avant dans l'église, des vérités très importantes. Et le disciple du Seigneur, c'est celui qui jour après jour passe du temps à écouter le Seigneur, à méditer sa parole et bien sûr à mettre en pratique ce que Dieu enseigne. C'est ainsi que jour après jour, dans cette connaissance intime et profonde avec Jésus-Christ, nous grandissions et nous devenons des maîtres. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, ce passage nous parle d'un avertissement adressé essentiellement à cette paresse spirituelle. Et cette paresse spirituelle est l'ennemi du progrès, qui rend l'âme incapable d'entrer à pleine voile dans la bénédiction divine et qui souvent aboutit à des naufrages spirituels. L'enfant en Christ a besoin de lait. C'est un bon signe, parce qu'il désire boire du lait. Et vouloir boire du lait manifeste la volonté de se nourrir spirituellement. Et c'est vrai qu'un chrétien qui n'aurait pas de désir de boire du lait serait plus dramatique, n'est-ce pas? Mais la question n'est pas le fait de vouloir se nourrir, mais de ce que je me nourris. La Bible ne condamne pas un chrétien qui a encore besoin de lait, mais plutôt le fait qu'il ne désire boire que du lait et qui ne recherche pas à grandir pour aller plus loin avec Dieu. Dieu n'encourage pas les chrétiens à rester au même stade. Dieu nous encourage à faire des progrès. Dieu nous encourage à aller plus loin. Dieu nous encourage à tendre vers la perfection, à devenir des maîtres. Dieu n'aime pas la paresse spirituelle, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire des progrès, pas faire d'efforts pour grandir, qui veulent toujours rester à leur petit stade de vie chrétienne, qui veulent rester à leur petit degré de foi, qui se contentent de leur petite expérience, qui se suffisent à eux-mêmes. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'encourage pas cette attitude-là. L'auteur rappelle, il le dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et j'ai souligné le mot « beaucoup ». Il est très intéressant de noter le mot « beaucoup ». Croire que nous sommes appelés à vivre peu d'expérience ou que la Bible enseigne peu de choses n'est pas juste. Parce que l'enseignement de la Bible est très riche. La vie chrétienne est une vie remplie d'expériences nouvelles, jour après jour. Vivre avec Jésus-Christ, c'est découvrir toujours plus la richesse de sa personne et de son œuvre. Paul a pu dire, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous sommes transformés de gloire en gloire dans sa connaissance. Plus le chrétien s'approche de Jésus-Christ, plus il recherche cette intimité avec Jésus-Christ, il est transformé de gloire en gloire. Nous sommes tous appelés à grandir et à faire de nouvelles expériences avec Jésus-Christ. Alors, pourquoi l'auteur lance-t-il ce troisième avertissement? Parce qu'il aimerait aller plus loin dans son enseignement sur la personne de Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux aimerait aborder des questions plus profondes que le simple message du Christ à la croix. C'est vrai, et gloire à Dieu, que nous sommes déjà arrivés à ce stade. Croire que Jésus-Christ est mort à la croix, c'est une très bonne chose. Croire que Jésus-Christ est ressuscité, c'est une très bonne chose. Croire que j'ai reçu le pardon de mes péchés, c'est une très bonne chose. Croire que lorsque j'ai péché et que je viens au pied de la croix, que Christ me pardonne, c'est une très bonne chose. Mais s'en rester à cela, c'est pas la volonté de Dieu. Rester uniquement au message de la croix, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses. Rappelez-vous, nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. La Bible a beaucoup de choses à nous enseigner pour que nous puissions aller plus loin. Et si ces choses sont difficiles à expliquer, si ces beaucoup de choses sont devenues difficiles à expliquer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas nous compliquer la vie. Le message de Jésus-Christ n'est pas compliqué. Mais ce qui rend difficile la compréhension, vous l'avez compris, c'est la paresse spirituelle. C'est le fait de ne pas vouloir grandir. Le fait de vouloir rester des enfants. C'est ça qui rend difficile le message. C'est à cause de notre immaturité spirituelle, de notre paresse, que les choses sont devenues difficiles. Mais à l'origine, les choses ne sont pas difficiles. Étant devenues difficiles, alors, on passe plus de temps à parler des choses élémentaires, les choses de base. Donc, on a encore besoin de l'œil spirituel. Et si on a encore besoin de l'œil spirituel, on ne grandit pas. Mais ce n'est pas la volonté première de Dieu. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous passions le stade du Christ crucifié, du Christ ressuscité. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut encourager, exhorte ses lecteurs à aller plus loin. Naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire la nuance entre le savoir et la sagesse spirituelle. C'est par la sagesse et le discernement spirituel que nous pouvons grandir. Alors, comment le chrétien peut-il recevoir ces lumières spirituelles? Naturellement, par une intelligence spirituelle, mais aussi par un cœur qui a soif de Dieu. Un cœur qui a soif de Dieu. Si mon cœur n'a pas soif de Dieu, je ne peux pas recevoir ces lumières spirituelles qui vont me permettre de grandir. Matthieu chapitre 5, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il faut avoir soif. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne cette soif spirituelle. Que Dieu nous la donne. Si nous n'en avons pas, qu'on la réclame au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette soif de toi. Donne-moi cette soif pour que je puisse pénétrer davantage ton enseignement, tes lumières, parce que tu veux que j'aille plus loin. Et bien sûr, un cœur qui est prêt à tout sacrifier pour le suivre. Dieu connaît mon cœur. Il sait où j'en suis. je ne peux pas le tromper. Mais Dieu peut aussi remplir mon cœur. Il peut le faire. C'est sa volonté. Dieu ne veut pas que je reste toujours au même stade. Il veut que je grandisse en lui. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est vrai qu'on lit ça facilement comme ça. Mais lorsqu'on se met à réfléchir, nous voyons toute la tristesse, pour ne pas dire l'affliction de l'auteur, et peut-être de Dieu lui-même, envers son peuple, quelque part. C'est vrai que le Seigneur aimerait nous dire des choses plus profondes, mais du fait de notre état de bébé depuis si longtemps, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas nous le dire, parce que nous sommes encore des bébés. On refuse de grandir. Il est tristement vrai que notre compréhension de la vérité divine est limitée par notre propre condition spirituelle. Une certaine lenteur à comprendre nous empêche de recevoir ces vérités profondes. Et ceci est souvent vrai pour nous, comme pour les disciples. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Christ dit que j'aimerais vous dire beaucoup plus de choses, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Tout chrétien qui fait des progrès se sent pressé de témoigner aux autres de ce qu'il vit. Tout chrétien qui grandit dans le Seigneur Jésus-Christ, qui grandit dans son amour, a le cœur qui déborde. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce qu'il est rempli de l'amour de Jésus-Christ. Il est rempli de la vie de Jésus-Christ. Tout chrétien qui est rempli de l'Esprit et qui marche selon l'Esprit de Dieu recherche toujours à vivre plus dans la sanctification. Tout chrétien qui grandit dans le Seigneur fuit le péché. Et les passions du corps, les passions charnelles, les passions de ce monde. Tout chrétien qui fait des progrès, jour après jour, s'éloigne de situations et de comportements ambigus. Parce qu'il est rempli d'espérance, et parce qu'il marche en vainqueur. Non pas à cause de lui, mais parce qu'il a mis sa confiance dans celui qui a remporté toutes les victoires. Amen. Alors que celui qui est encore un bébé dans la foi, un bébé spirituel, il ne peut pas vivre ces choses. De même qu'il n'aspire pas véritablement à être délivré de la puissance du péché dans sa vie, de même, il n'aspire pas à témoigner autour de lui de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est incapable. Incapable de parler autour de lui des grâces du Seigneur. Pour lui, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans sa vie. J'ai marqué, il vit avec son péché et se dit qu'il n'y a rien à faire. C'est normal, Dieu ne peut pas me changer. Voici la psychologie et le comportement de l'enfant spirituel, de celui qui ne recherche pas à grandir. Ce qui est curieux dans le texte, l'auteur dit, vous en êtes venu à avoir besoin de lait. Il y a comme une régression, comme un retour en arrière. Au lieu de devenir des maîtres, ils ont encore besoin de lait spirituel. Il y a comme un retour en arrière. Savons tous que celui qui n'avance pas recule. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Celui qui n'avance pas spirituellement recule. Et non seulement il recule, mais le diable va même enlever ce qu'il a déjà reçu. Par diverses ruses. N'oublions pas que notre adversaire est très rusé. Et il sait y faire, malheureusement. il sait s'y faire. Pour enlever ce qu'on a déjà reçu. Celui qui n'avance pas recule. D'où l'importance qu'il nous a donnée de maintenir notre lampe, toujours bien huilée. Et cette huile peut avoir plusieurs symboles. On dit que c'est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi pas? Oui. Mais je dis aussi que cette huile est aussi le symbole de notre face-à-face, de notre intimité avec Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour que je passe du temps, non pas par devoir, non pas par légalisme, mais que je passe du temps parce que je recherche, parce que j'ai soif de la parole de Dieu, j'ai soif de la présence du Seigneur Jésus-Christ, mais chaque jour, j'entretiens ma lampe. J'entretiens ma lampe. Toujours bien huilée. L'auteur nous parle de l'expérience de la parole de justice. Il dit « Or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » L'expérience de la parole de justice. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses à savoir. La première, c'est que la valeur n'attend pas le nombre des années. Dans le royaume de Dieu, la valeur n'attend pas le nombre des années. Un jeune chrétien qui a réellement soif de perfection, qui a rompu avec le péché, qui regarde toute chose comme une perte pour parvenir à la connaissance parfaite de Jésus-Christ, peut démontrer une grande maturité. Un jeune chrétien. De même qu'un chrétien qui connaît l'évangile depuis des années et qui ne désire pas laisser le Seigneur prendre toute la place dans sa vie, que Christ règne véritablement dans sa vie, restera toute sa vie, qu'il le veuille ou pas, un bébé spirituel. N'a pas fait l'expérience de la parole de justice. De quelle expérience s'agit-il? Il me semble que par parole de justice, il faut comprendre tout l'enseignement du Christ pour son Église qui se renferme à la fois par cette part de souffrance inévitable pour celui qui a choisi de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Dans l'enseignement du Christ, il y a cette part de souffrance inévitable qui nous attend à tout chrétien, toute chrétienne bien sûr, qui a choisi de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Mais il y a aussi, gloire à Dieu, cette part d'espérance, de gloire qui est réservée à celui qui demeure ferme. Il y a cette part de souffrance, il y a aussi cette part de gloire. Cette part d'espérance. Il demeure ferme dans les épreuves qu'il va connaître du fait que Jésus-Christ est avec lui, il va le soutenir. Ce qui nous fait grandir et mûrir, ce n'est pas nos talents ni nos études. Mais notre fidélité. Notre fidélité que nous manifestons chaque jour. Dans nos épreuves. C'est cette fidélité que nous manifestons dans nos épreuves à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça. Dans le sport, plus l'athlète s'entraîne, plus il devient performant. Dans la musique, plus le musicien fait des gammes, plus il joue juste. Le chrétien devient plus mûr à mesure qu'il fait toujours le bon choix en discernant ce qui est bien et ce qui est mal dans ses épreuves en comptant sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, nous avons tous, jour après jour, des décisions à prendre, des petites comme des grandes, des choix à faire. Tous. Et c'est à mesure que nous faisons toujours le bon choix, que nous prenons toujours le bon choix, que nous faisons le bon choix, que nous prenons la bonne décision, que nous grandissons ainsi. Christ, lui aussi, a dû passer par là. Un peu plus haut, il est dit, verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Christ, jour après jour, a dû aussi faire des choix, a dû prendre des décisions. Et Christ, par la grâce de Dieu, a toujours pris la bonne décision. Nous, en tant que chrétiens, sommes aussi appelés à prendre des décisions, à faire des choix. Et à mesure que nous, avec la grâce de Dieu, nous discernons le bien du mal et que nous faisons le bon choix, c'est ainsi que nous allons grandir. C'est ainsi que nous grandissons. Ce qu'il faut retenir, c'est notre fidélité à la parole de Dieu et notre obéissance à Jésus-Christ. Deux critères fondamentaux qui vont nous aider à grandir. L'auteur nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits. Qu'on peut aussi traduire les hommes parfaits. Vous voyez, c'est le terme grec, téléos, qui a cette idée qui exprime la notion de fin, du but à atteindre, du but final. Et le chrétien qui lutte de toute son âme pour atteindre le but, pour atteindre le but, pour atteindre l'idéal, est qualifié entre guillemets de parfait. Il est qualifié de parfait. Non pas qu'il est athée, puisque l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, verset 12, pas que je l'ai encore atteint, mais je le vise. Je vise ce but-là. Donc le parfait, le téléos, est celui qui vise le but, qui vise l'idéal. Et cet idéal, c'est la perfection. Il la vise. Non pas qu'il est athée, mais il la vise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul nous dit dans Philippiens 3, 12, je le vise, mais au verset 15, on va le lire, au verset 15, Paul se met au rang de ceux qui l'ont déjà atteint. On va lire, on va voir. Il y a encore un petit peu de temps. Philippiens 3, on va lire les versets 12 à 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, verset 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits, des hommes parfaits, ayant cette même pensée, etc. Le mot téléos s'adresse fondamentalement à ceux qui ont ce but dans leur vie, qui visent la perfection, mais ce mot aussi s'adresse à ceux qui ont ce but. À la fois nous le visons, mais nous le sommes déjà. Mais nous sommes déjà en Jésus-Christ, qui lui est l'homme parfait. Et la perfection chrétienne n'est pas autre chose que la communion avec Jésus-Christ dans son obéissance par le Saint-Esprit. C'est ça. La perfection chrétienne n'est pas autre chose que la communion avec Christ dans son obéissance par le Saint-Esprit. Donc l'auteur termine en disant « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous allez me poser la question, mais Pierre, jusqu'à maintenant, c'est quoi cette nourriture solide? Puisque ce n'est pas croire uniquement au fait que Christ soit mort à la croix ou qu'il soit ressuscité. C'est quoi cette nourriture solide? C'est connaître qui est Jésus-Christ. Connaître que Christ est notre grand Melchisédek. C'est un terme biblique, hein, j'ai rien inventé, hein, marqué là. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lorsque le chrétien a réalisé, a compris dans sa vie de tous les jours que Jésus-Christ est son grand Melchisédek, il a fait un pas énorme dans la foi. Lorsqu'il a compris que Jésus-Christ, ce grand Melchisédek, exerce le sacerdoce devant le Père pour lui, et que le Christ a la puissance d'une vie impérissable pour l'aider jour après jour à vaincre le péché. Que le Christ, par son sacerdoce auprès du Père dans les cieux, dans le lieu très saint, le soutient jour après jour par son esprit, ce chrétien fait des bons extraordinaires dans la foi. Lorsqu'il réalise que ce sauveur, ce Melchisédek, que Christ, son grand Melchisédek, est capable de le sauver parfaitement de la puissance du péché et de ce monde, qu'il est aussi capable de lui faire vivre dans le lieu très saint, alors il grandit. Que lorsqu'il réalise que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, qui écrit la loi de Dieu dans son cœur, alors il grandit. Voilà cette nourriture solide, que nous comprenions vraiment qui est Jésus-Christ pour nous. Que nous réalisions qu'il est notre Melchisédek. Melchisédek. Et naturellement, pour que nous puissions en ressentir toute la ferveur, toute la teneur de ce message, il faut que nous soyons affamés. Affamés pour pouvoir rechercher ces vérités. Rechercher ce désir de tendre vers la perfection. Tout rejeter de ce monde pourri et viser la connaissance de Christ. Dieu ne veut pas, pour conclure, Dieu ne veut pas que nous restions au stade d'enfant spirituel, mais que nous grandissions dans notre communion avec lui, avec la puissance que le Christ met à notre disposition. Vous savez, la même puissance que Dieu a manifestée pour ressusciter le Christ d'entre les morts, c'est cette même puissance que Dieu veut nous communiquer jour après jour dans notre marche avec Dieu. C'est la même puissance, la puissance de son esprit. Vivre entièrement pour Christ, cela devrait être notre but. Je termine par un verset, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, voilà notre idéal à atteindre. Celui qui le met devant nous, Dieu nous le rend aussi possible. C'est parce que Dieu veut que nous soyons tous parvenus à cette stature parfaite qu'il peut le rendre possible. À nous à le désirer dans sa grâce. Alors que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse et qu'il nous donne jour après jour cette soif de lui. Amen. Amen.